Médias.
Médias. Podcast.
Médias. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Qui a dit que les hommes n'avaient pas le droit de se réinventer, de revivre une nouvelle vie, ou même plusieurs s'ils le souhaitent, et d'avoir envie justement de sortir de leur zone de confort? Eh bien, tout est possible, à n'importe quel âge. Mon invité d'aujourd'hui l'incarne parfaitement. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Nabil Barada, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Vous êtes l'homme d'aujourd'hui.
Un vrai plaisir. Un vrai plaisir.
Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va discuter ensemble de ce qui vous a construit et ce qui fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Votre parcours de vie, les hauts et les bas surtout, parce que ce sont les bas qu'on adore et qui façonnent le plus en fait. Et qui nous donne les meilleures leçons de vie. Et ça, c'est l'expérience, on va dire, personnelle. Mais c'est aussi l'expérience de ces deux années avec mes femmes d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que c'est quand ça va très mal que finalement, on apprend beaucoup plus que quand on réussit, quand ça va bien. Est-ce que pour un homme, c'est la même chose, Nabil Barada? Est-ce qu'un homme, au bout du compte, finit également par savourer ses échecs?
Mais je dirais ce que tu viens de dire me parle énormément. Pour la simple raison que, c'est-à-dire, et là tu as parlé de qu'est-ce qui t'a construit, je reviens sur ce mot-là.
Absolument.
Et j'estime que l'on est constamment en construction, constamment. Je crois qu'il faut plusieurs vies pour que la chose soit aboutie, et j'en sais pas. Peut-être que je ne sais pas comment on peut être abouti, mais je crois que la meilleure des choses, c'est qu'on puisse toujours être en construction. Bon, il y en a qui n'aiment pas être en construction, ils aiment être dans quelque chose de stable. Moi, ce n'est pas mon style. Alors, je vais te parler un peu d'une conviction profonde qui a été construite tout au long de mon expérience. C'est que la vie, elle est faite de cycles. Et généralement, il y a des cycles qui s'ouvrent, mais pour qu'on puisse en profiter, il faut absolument boucler les cycles précédents. Et c'est dans cette transition qu'il y a des moments difficiles, qu'on vit des moments difficiles. Parce qu'on lâche des choses qu'on sait, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et c'est des choses qui ont fait par moments notre légitimité.
Absolument.
Sur le plan social, sur le plan professionnel.
Absolument.
Et par la suite, et on se jette dans le vide. Dans des choses qu'on ne sait pas. Mais sauf qu'il y a souvent un appel de l'intérieur. Et cet appel de l'intérieur, il faut savoir l'écouter. Parce que quand on ne l'écoute pas, il peut se jouer de nous. C'est de la frustration, c'est de la déception, c'est le manque de confiance en soi. Je peux t'assurer que mes sauts dans le vide, globalement, c'était des moments difficiles. Des moments très difficiles parfois, des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments où j'ai manqué de confiance en moi. Mais par la suite, une fois de l'autre côté, je me dis « waouh, j'aurais dû le faire plus tôt ».
Mais pourquoi vous vous êtes lancé? En fait, pourquoi vous vous lancez dans le vide alors que vous savez que ça va mal, enfin, que vous allez mal le vivre? À ce moment-là, quand vous vous lancez, que vous avez peur, que vous êtes déstabilisé, vous dites pas « mais… Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas juste être bien dans mon coin, dans ma routine, dans mon quotidien, dans ma stabilité? » Vous ne vous dites pas ça parfois?
Écoute, au départ, oui. Ah. Mais quand on apprend à se connaître, et moi, je sais que, par exemple, de par ma nature, je ne peux pas vivre dans quelque chose de routinier. Je suis un développeur, je suis un créatif. Donc, je développe. Mais qu'une fois que j'ai développé, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je passe la main à quelqu'un. Et à la limite que je puisse juste... je suis au fond un jardinier. Et c'est comme ça que j'associe un peu ma vie. J'adore la nature et j'associe. Et dans la nature, on fait. Et après, on passe à autre chose. Et on ne peut pas continuer à s'occuper de la plante, à s'occuper de la terre. On laisse les choses se faire. Et on peut passer à autre chose. Et la nature a des cycles. Toute l'année, il y a l'hiver, il y a les saisons. Et on change d'un moment à un autre. Moi, quand j'ai compris ça, au départ, c'est vrai que c'était difficile. Même très difficile. C'est-à-dire, en fait, quand l'opportunité se présentait, une opportunité supposée, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer de l'autre côté.
Absolument.
Je me dis, et on se jette dans le vide. Et au départ, ce n'était pas évident. Mais avec le temps, avec l'âge, on prend goût. Et maintenant, je peux t'assurer que quand j'ai une opportunité, d'abord, j'écoute, est-ce que j'ai un appel de l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me, qui me, qui me pousse l'intérieur à aller vers cette chose-là. Quand je sens que mon corps et que mon cœur y sent, ben j'y vais. J'y vais, et à la limite, quel est l'enjeu? Parce qu'avant, on pouvait se poser la question qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux sociaux, l'image. Avec le temps, je commençais à me dire, finalement, c'est quoi l'enjeu? Et généralement, quand on mesure cet enjeu-là, c'est des peurs psychologiques, c'est des peurs fantasmées qui n'existent pas. Alors, et cette peur peut nous limiter dans notre élan.
Maintenant, on va rendre les choses concrètes. En fait, avant de parler de ces peurs, mais on va parler des peurs et après on va revenir à une question. Parce que vous avez parlé de plantes, mais je pense qu'il y a une plante qui a besoin d'être constamment arrosée, la même, la faire pousser, ne pas la donner à quelqu'un d'autre, c'est la famille, c'est le couple.
Absolument, absolument.
Cette plante-là, elle ne permet pas d'avoir la liberté que vous recherchez, Nabil. Le détachement que vous recherchez.
Alors, je peux t'assurer une chose. Bon, moi, alhamdoulilah, j'ai une famille qui est stable et qui m'a permis de prendre ces risques. Mais au départ, ce n'était pas évident, dans la mesure où ce qui se travaillait en moi, j'avais du mal à le mettre en mots, à l'expliquer. Par exemple, quand j'ai quitté le salariat pour aller vers un métier, je dirais, libre, une profession libérale, à mes enfants, à ma femme, il fallait leur expliquer que j'avais envie de faire autre chose. Mais eux, ils voyaient que c'est un manque de stabilité, c'est des revenus en moins, c'est une prise de risque, alors que tout se passait bien. Et donc, il fallait leur expliquer. Et le problème, c'est que je manquais de mots à ce moment-là, parce que même moi, je n'arrivais pas à mettre de mots sur ce que j'étais en train de vivre. C'était un appel de l'intérieur. C'est quelque chose, je dirais, et quand il y a des appels, généralement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et généralement, c'est à des ruptures. Et la première, c'est-à-dire en fait le grand saut dans le vide que j'ai fait en passant du salariat où j'ai passé 28 ans à une profession libérale, je l'ai fait suite à une rupture du tendon d'Achille.
D'accord, une rupture physique donc.
Une rupture physique. Au moment où j'étais en train de tomber, j'étais en train de me dire « Waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer ». J'étais en plein élan professionnel et le fait d'être arrêté physiquement, je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose qui se passe ». J'avais la douleur, mais en même temps, il y a quelque chose qui se travaillait à l'intérieur. Et pendant les deux mois où j'étais alité, ça réfléchissait, ça travaillait. Et je suis arrivé à la conclusion que la vie est trop courte, la vie est trop belle pour qu'elle soit gâchée par quelque chose qu'on n'aime pas, à faire quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on gérer des choses que peut-être que j'ai aimées au départ, mais il fallait que je passe à autre chose, peut-être que je retrouve, que je renouvelle mon plaisir. Et c'est ça ce qui a fait que... Et là, je n'ai pas peur des ruptures. Enfin, des ruptures... mais à condition de ne pas trop perturber son écosystème. Je crois que la famille est c'est un socle extrêmement important pour pouvoir faire des ruptures sans tout foutre en l'air.
Absolument.
Excuse-moi du terme.
Ouais. Vous auriez été capable, justement, s'il y avait eu beaucoup de résistance dans la famille proche, vos enfants, votre épouse, vous auriez pu, justement... cause de cet appel ou pour cet appel, tourner le dos à cette plante?
Je crois que je l'aurais fait si je n'avais pas eu une femme intelligente qui, au bout d'un moment, elle a compris que si elle me retenait, elle allait me perdre. Et donc, à ce moment-là, elle a préféré m'accompagner.
Et ça, c'est une très grande preuve d'amour.
Me soutenir. Absolument, absolument. Mes enfants également, c'est-à-dire au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un courant de communication, je dirais, continue avec mes enfants, je les associe à mes décisions. Je leur dis, voilà ce que je suis en train de faire. Et automatiquement, mes enfants commencent à connaître mon métier, ils savent avec quel client je travaille, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire comme formation, dans quelle ville je travaille. Et automatiquement, c'est bon. Et quelque part, c'est devenu un motif de fierté pour mes enfants, de voir comment j'ai pu faire le saut, sans nécessairement. Il a fallu faire le deuil de beaucoup de choses, d'une stabilité professionnelle, d'une image sociale, supposée, parce que quand on est salarié, on représente une entreprise, on représente un secteur, on représente un métier. Mais quand on est dans une profession libérale, il faut se débrouiller, il faut construire une nouvelle image, une nouvelle identité, où il faut tout faire. Et quand mes enfants, ils ont vu que je commençais à avoir un portrait clientèle, que je commençais à être sollicité, que je commençais à avoir des articles dans la presse, les gens parlaient de moi, c'était autre chose. C'est-à-dire, en fait, ça y est.
La légitimité
est
là.
Il n'est pas foutu.
Ouais.
Absolument, il n'est pas foutu. Ça y est, et il s'est lancé dans quelque chose qu'il aime. Et là, ils ne sont pas étonnés quand ils voient que je vais vers d'autres choses, des choses auxquelles ils s'attendaient le moins.
Ouais.
D'ailleurs, parce que j'étais stable pendant un certain moment, et là, je suis en train de faire des cycles courts. Donc, à chaque fois, je peux passer d'une chose à l'autre, sans nécessairement remettre en cause, comme je l'ai bien dit, le socle de ma stabilité. Bon, mes enfants, ils sont grands, ils sont à l'étranger, ils travaillent, mais on est toujours en communication, ils savent exactement ce que je suis en train de faire.
Alors, une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit c'est des peurs inutiles, etc. En fait, pour être cash et pour être honnête, la plus grande peur des gens, c'est de manquer d'argent. Quand on change une situation pour une autre, se lancer dans le vide, c'est est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais pouvoir payer l'école de mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir les emmener en vacances? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre, entre guillemets, ce que je vivais jusque-là? C'est ça la première crainte des gens.
Absolument. Enfin, il y a cette crainte qui est majeure.
Oui.
Et je crois que la deuxième crainte qui est également fondamentale, c'est l'image sociale. Je travaille dans une multinationale. Enfin, quand j'accompagne maintenant mes clients, c'est la principale problématique. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, je ne voudrais rien. Si je quitte, je ne suis rien.
Ça
m'a fait très très mal. Rien, je suis rien. Sans mon métier, je ne suis rien. Moi, je suis capable maintenant de dire que je suis ce que je suis avec ce que je gagne. Et je suis content avec ce que je suis. C'est-à-dire que je suis capable, avec mon identité, de ce que je suis maintenant, je suis capable de faire autre chose. Et que je ne dépends pas du regard de l'autre. Bon, c'est vrai que quand je travaille avec des clients, il faut les contenter, il faut être correct, il faut s'engager, il faut respecter un certain nombre de règles professionnelles. Mais ça n'empêche que je garde une forme de liberté que je n'avais pas en tant que salarié. Donc, il y a toujours un gap de l'autre côté.
Alors, peut-être, permettez-moi justement d'échanger sur ce point. Si, quand on arrive à s'autosuffire, à se détacher du regard de l'autre, c'est parce qu'on a réussi, entre guillemets, à se réaliser quelque part. C'est-à-dire, vous avez réussi à vous réaliser en dehors du monde de l'entreprise, Je voulais dire entrepreneuriat, entreprise, du monde classique de l'entreprise. Vous avez réussi à sauter ce premier pas, à construire quelque chose et à prendre confiance en vous. Et vous dites que tout est possible. Les personnes, je pense, qui restent dans un même modèle, qui ne sortent pas de cette fameuse zone de confort, qui ne poussent pas ces barrières, auront toujours peur de ne pas exister en dehors de leur environnement professionnel sécure.
Ben, plus on avance dans l'âge, moins on est tenté de faire le saut.
C'est vrai ?
Parce que,
vous l'avez fait
le saut,
autour de quel âge ?
Moi, je l'ai fait à 48 ans.
C'est la crise de la quarantaine.
C'était le bon moment. Peut-être.
Ouais.
Moi, je suis traversé par beaucoup de crises. Et les crises, juste pour justement revenir à ce concept, est une rupture de modèle.
Ouais,
une crise, ce n'est pas un drame.
C'est une rupture
de modèle.
Ouais.
Et quand on fonctionne dans un modèle et que ce modèle ne nous satisfait plus, ben on passe à autre chose. Sauf que parce qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de continuité, on a besoin de perdre un certain nombre de choses, bon, on ne veut pas sortir de ce modèle. Alors que le modèle ne convient pas. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai fait. J'accompagne des gens maintenant, c'est-à-dire qu'à la soixantaine, ils ont envie de se réinvestir dans d'autres choses. Ils s'appellent ça. C'est donc, en fait, ils ont envie de retraiter sa vie, ils n'ont pas envie de se retirer.
Oui.
C'est un mot différent, parce que généralement, on associe retraite un retrait, alors que la retraite, c'est un retraitement de la vie. On a envie de faire autre chose de sa vie.
Ouais.
On a envie de se reconnecter à des pulsions intérieures, à des passions, à des choses qu'on a toujours aimé faire. Donc, moi, je l'ai fait. Je ne crois pas qu'il y ait une question d'âge, mais plus je vois les gens qui restent très longtemps dans une position, ils ont un peu plus de mal que d'autres.
Alors, 48 ans, quand même, c'est pas très tôt. 48 ans, si on doit calculer de façon vraiment basique, on est plus proche de la retraite que du début de sa carrière. Et pourtant, c'est encourageant de savoir que même à 48 ans, on peut se lancer dans autre chose.
Alors, je vais te faire un aveu. Quand j'ai commencé cette aventure, je me suis senti encore plus jeune qu'avant, qu'à 30 ans.
Ouais.
Parce qu'il y a un appel d'énergie. En fait, on est dans le vide, il faut s'en sortir. Là, il faut courir, il faut se réinventer, il faut réfléchir, il faut recréer un autre réseau de relations. parce qu'avant, quand je travaillais avec les gens dans le cadre de l'entreprise, soit c'était des partenaires et j'avais un certain pouvoir sur eux. Mm. Et quand on est dans une position et profession libérale, il faut avoir de la légitimité qui vienne avec la valeur ajoutée que je peux leur apporter. Et c'est une valeur ajoutée qu'il faut goûter tous les jours.
Bien sûr.
C'est pas quelque chose, c'est pas une marchandise que je peux stocker. Tous les jours, il fallait que je me réinvente. Et c'est quelque chose qui me convenait. Donc, je ne crois pas que l'âge, c'est-à-dire à 48 ou 52 ou 53, ou même 60 ans, quand on peut régénérer cette énergie, quand on peut la réinventer, quand on peut la redéployer, je crois que c'est top. Et indépendamment de l'argent, indépendamment de la carrière, indépendamment, c'est une forme de vie qu'on est en train de redéployer.
Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là, ces hommes qui ont envie de se réinventer, mais qui ont on va dire, la charge de la famille, les enfants, etc. Vous conseilleriez quoi à leurs épouses? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à ces hommes?
Alors moi, je vais leur dire ce que j'ai dit à ma femme. Est-ce que tu veux un homme heureux ou un homme qui gagne de l'argent?
Les deux, c'est bien. Je suis sûre que maintenant...
Ben, les deux, c'est bien. C'est-à-dire gagner de l'argent.
Je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent...
Quand je rentrais du bureau, j'étais malheureux. Parce que ça ne me parlait plus. Je refaisais des choses. Alors, en fait, j'avais une équipe qui fonctionnait très bien, mais moi, ça y est, je devais passer à autre chose. Et à un moment, quand elle m'a dit « Non, on a des enfants », je lui ai dit « Écoute, oui, d'accord, je peux peut-être continuer à gagner de l'argent ». Maintenant, ce que je leur dirais, peut-être à ces personnes, ça peut être des femmes ou des hommes, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Faites les choses dans lesquelles vous pouvez exceller, et non pas les choses qui peuvent plaire aux autres. Parce que quand vous vous connectez à votre zone d'excellence, l'énergie revient, l'inventivité revient, la créativité revient. Et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, quelque chose qui plaît aux autres, mais on le fait par mimétisme, ben là, il faut aller chercher l'énergie d'ailleurs. Mmh. Et c'est là où on se fatigue. C'est là où les gens abandonnent. C'est là où les gens sont déçus. Et c'est dommage, quand on arrive à cet âge-là, de ne pas se faire plaisir.
Certains pourraient se dire, oui, mais quand on fonde une famille, on pense moins à ce qui nous fait plaisir et plus à l'avenir de nos enfants et plus à ce qui leur fait plaisir et plus à leur sécurité, etc.
Alors moi, j'ai une réponse qui est très simple. Quand on est malheureux, comment on peut rendre une famille heureuse? Quand on est constamment en colère, quand il y a cette colère intérieure, cette déception, comment... Alors à ce moment-là, il faut juste... Moi, je n'ai pas de recette magique.
Bien sûr.
Chacun peut trouver sa propre recette en fonction de ses économies, en fonction de son histoire, en fonction des métiers qu'il a fait et ce qu'il sait faire. Ça, à la limite, une équation à plusieurs variables. Maintenant, la seule chose, c'est que moi, je pars du principe qu'un mari qui est malheureux, il va rendre sa femme malheureuse. Ou une femme qui est malheureuse, il va rendre son mari malheureux parce qu'il est frustré. Oui, il est frustré. Et là, il faut peut-être s'asseoir. Peut-être que c'est là où la communication dans une famille est importante. Il faut s'asseoir et essayer de trouver... Alors, il n'est pas nécessaire de quitter son job ou de faire autre chose, mais on peut se connecter à d'autres choses. Une passion qui peut rendre la personne heureuse. Il y a des gens qui restent dans leur travail, mais en même temps, ils font une passion. Ils créent autre chose. Ils sont dans l'agriculture, dans le jardinage, dans la musique, dans la peinture, dans d'autres choses, où ils peuvent se régénérer. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une question d'argent.
Bien sûr. Ou de changement de cas professionnel. Mais là, on parle de vous et vous, ce changement, il a été par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui vous a lancé, amené vers le coaching? Parce que vous étiez dans le monde de la communication, c'est bien ça?
Absolument, absolument. En fait, je faisais du coaching sans le savoir. Et à un certain moment, dans cette quête de sens, cette quête de régénération, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer quelque chose qui s'appelle coaching? Et quand je me suis inscrit, mais je ne savais même pas pourquoi j'ai été dedans. J'étais en quête d'outils, de quelque chose que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais qu'il y avait des choses qui me parlaient. Des choses, et ça me rappelait que ma principale préoccupation, même en tant que directeur dans des multinationales, c'était l'être humain. C'est-à-dire comment le mobiliser, comment l'engager, comment le motiver, comment le rendre plus heureux dans son travail. Et quand j'ai trouvé ces outils, je me dis « Waouh, c'est quelque chose qui permettrait peut-être de partager mon expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire en tant que salarié, parce que j'ai quand même passé 28 ans dans des entreprises nationales et internationales, avec des outils, je dirais, qui pourraient m'aider peut-être à rendre ces gens je dirais, plus mobilisé, mais tout en étant heureux. Mmh. En fait, c'est pas de la manipulation. C'est-à-dire, en fait, il faut peut-être encourager les gens à trouver du sens dans ce qu'ils font. Et c'est une logique de communication, parce que là, finalement, je retrouve mon amour premier, la communication. C'est de rétablir la communication dans une entreprise, entre un salarié et son entreprise.
La communication positive, absolument, constructive.
Absolument. Quand il y a rupture de communication, ben, il y a des engagements, et il y a violence, et il y a d'autres choses. Après, ça peut partir sur du burn-out ou autre chose. Parce qu'on n'a pas écouté le salarié, on n'a pas écouté, peut-être même le salarié n'a pas écouté les contraintes du chef d'entreprise quand on les met ensemble. Et c'est ça, peut-être le recul que j'avais dans l'entreprise me permettait peut-être jouer ce rôle plus facilement.
Exact.
Et ça m'a donné de la légitimité.
Alors, Nabil Barada, aujourd'hui, est-ce que vous êtes un mari heureux ?
Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je me le dis tous les jours.
Votre femme, elle a eu besoin un jour ou l'autre, justement, de vivre cette nouvelle expérience de vie, autre chose ?
Mieux que ça. Elle a suivi mon chemin. Elle était patronne dans une grande multinationale. Et au bout de 2 ans, elle a suivi mon chemin. Elle a créé également son entreprise. Et donc là, elle a vécu. Elle est passée par là où je suis passé.
Ouais.
Et elle a fait... Et là, il a pratiquement tout arrêté pour se consacrer à son potager.
D'accord. Donc, et ça devait être un peu plus simple pour elle, parce que vous saviez par quoi elle passait.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Bon, en fait, après, elle veut rien me dire. Écoute, maintenant, je comprends mieux ce que tu es en train de vivre.
Absolument. Ouais.
Moi, de par ma position, de par mes peurs, je n'étais pas capable de comprendre ce que tu es en train de vivre. Bon, écoute, il y avait également une partie de ma responsabilité, parce que je n'étais pas capable, comme je t'ai dit au départ, d'exprimer ce genre de choses. Quand on est traversé parfois des choses, on ne sait pas en parler. On les vit, mais on ne sait pas en parler. Mm. Il faut du temps, il faut du recul. Peut-être un peu maintenant, je peux en parler. Mais avant, mais pendant que je l'ai traversé, moi-même, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de vivre là ?
Ça fait peur.
Il fallait un peu de temps pour que ça se décante. Ben oui.
Ça fait peur parce qu'on se dit, est-ce que... Non, ça ne vous a pas fait peur à ce moment-là de vous dire, je suis en train de lâcher quelque chose que je connais pour quelque chose que je ne connais pas. Mais au fond, je ne sais pas vraiment pourquoi.
Alors, pour être honnête avec toi, quand j'ai quitté le salariat, j'étais dans une logique d'euphorie. Je retrouve ma liberté, j'étais capable de faire des choses, de retrouver des clients, de me dire que je suis capable de faire les choses par moi-même et non pas par le biais d'une entreprise qui me déléguait son pouvoir. Passé une année, j'ai vécu un petit moment de déception parce que les amis qui me promettaient des choses disparaissaient. Donc, à ce moment-là, il fallait... ça y est, mettre les choses à plat et recommencer à zéro. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis remis dans des formations, c'est-à-dire je ne me suis pas arrêté, et je ne me suis pas un peu apitoyé sur mon sort, je me suis dit non, il faut bouger. Bon, mais j'avoue que pendant un moment, j'étais dans le désarroi.
Oui,
je me disais, est-ce que je n'aurais pas fait de rester là où j'étais ?
Absolument.
Et en même temps, je me disais, mais j'étais malheureux. Est-ce que ça aurait été bien que je reste malheureux où j'étais, peut-être que... Et pourtant, l'entreprise où j'étais, c'est-à-dire j'avais de très bonnes relations, les choses se passaient bien, mais c'est mon rapport avec le métier, avec la routine qui me rendait malheureux. C'est-à-dire partir tous les jours de 8h, 9h au bureau et rentrer à 19h, non. C'est-à-dire, en fait, moi, je peux travailler le week-end maintenant, je peux travailler les jours de... c'est-à-dire au-delà des heures de travail, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas quelque chose de figé. Et oui, il y avait la peur, mais ce que je recommanderais aux gens qui ont envie peut-être de suivre un chemin plus ou moins similaire, c'est que lorsqu'on traverse cette peur une première fois, une deuxième fois, après on n'a plus peur de la peur. Et on prend le risque, parce qu'encore une fois, on se pose la question qui est l'enjeu. Et qu'il faut calculer les choses, il faut réfléchir. On ne va pas se jeter dans le vide sans mesurer, est-ce qu'on a de l'épargne, est-ce qu'on a de quoi payer l'école des enfants, mais il y a toujours une zone de risque. Mais on ne prend pas 100% de risque.
Nabil Barada, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui dans la version homme.
Merci beaucoup à toi.
C'est très reposant de discuter avec vous.
Merci, merci beaucoup à toi. Et j'espère que ce que j'ai dit pourrait faire sens. Ce n'est absolument pas une recette.
Ouais.
C'est mon vécu, c'est mon expérience. Si ça peut inspirer certains, tant mieux.
C'est un vécu possible, en fait.
Absolument.
C'est
tout ça, est possible.
C'est ça. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média 1 et bien sûr en avant-première sur Média 1 Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média 1 Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.